Bonjour. Donc toujours un plaisir, une joie de venir voir mes frères et sœurs avec Priscilla, de venir voir les frères et sœurs de l'église de Saint-Maur qu'on apprécie beaucoup. Et merci encore de votre invitation régulière. On est très contents de pouvoir voir encore les uns les autres, partager, prier ensemble. Toujours un privilège. Donc qui a appris le psaume 23 quand ils étaient petits? Plus ou moins. Et on le connaît encore, hein, c'est ça. Et donc, combien le connaissent par cœur, à peu près, juste pour qu'on se dise? À peu près, par cœur. Le psaume 23, c'est un psaume vraiment intéressant et il a marqué la foi chrétienne pendant des années et des années, et encore aujourd'hui. Et on le connaît par cœur, mais il est encore plus puissant, c'est si on le vit. Et c'est encore ce que j'aimerais pouvoir méditer avec vous. Un psaume que beaucoup connaissent, un psaume que beaucoup ont appris, que même des non-chrétiens connaissent, parce qu'ils étaient petits, que leurs parents, qui eux étaient chrétiens, l'ont appris, le connaissent par cœur, mais est-ce qu'ils le vivent vraiment? Et est-ce qu'on le vit vraiment? Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce texte qui est vraiment un texte qui nous révèle le cœur d'un adorateur. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière disait, Dieu cherche des adorateurs. Et là, je peux vous dire que le psalmiste David, quand il a écrit ça, il avait ce cœur d'adorateur. Et c'est ce que j'aimerais pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse dire le psaume 23, quelles que soient les situations de la vie, qu'on puisse l'exprimer dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, parce que dans ce psaume, il y a le cœur de l'adorateur. Et dans ce psaume, on révèle la beauté, la magnificence de Dieu. On révèle qui il est, on révèle sa personne, son caractère, ses qualités. Et on va s'arrêter sur ce texte. Et ma prière, c'est vraiment que chacun d'entre nous, on puisse rentrer dans la réalité de ce texte qui est quand même un texte formidable. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci parce qu'on se réjouit pour la possibilité de méditer ta parole. Et voilà, tout simplement que ce psaume pénètre nos cœurs et qu'on le vive et qu'on aide d'autres aussi à le vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est bien qu'on soit là, c'est-à-dire que je peux prendre un micro et me déplacer un peu. Donc, le psaume 23, et on va essayer de rentrer dedans. Alors, l'Éternel est mon berger. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bergers. Qui a choisi carrière de berger? Non, parmi nous. Études de berger? Non. Au temps de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, c'était très très commun. Vous savez qui est le premier berger dans la Bible ou pas? Enfin, je veux dire, nommé berger. Peut-être qu'il y avait encore quelqu'un avant lui, mais nommé comme étant un berger. Oui, exactement. Abel. Abel était berger et son frère, donc Abel qui est le fils d'Adam et Ève, donc Adam qui est le premier homme sur la terre, créé par Dieu, et ils ont deux fils au début, donc Caïn et Abel, et Abel est berger et Caïn est agriculteur. Et ensuite Abraham était berger, il avait des troupeaux, tous les patriarches ont gardé des troupeaux, le deuxième roi David, lui était berger. Beaucoup sont des bergers. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se présente comme le berger d'Israël. Je suis le berger d'Israël, je paie mes troupeaux, mon troupeau. Et évidemment, une personne qu'on aime beaucoup, qu'on chérit de tout cœur, en Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dira, « Je suis le bon berger qui donne, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est encore ma prière, c'est que chacun d'entre nous on puisse expérimenter ce que veut dire avoir Jésus comme berger. L'Éternel est mon berger. Donc la sœur tout à l'heure, elle nous disait, voilà, verset 1 de psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et on voit le cœur de David qui dit, mais moi je sais qu'avec Dieu, quand Dieu est mon berger, je n'ai rien à craindre dans aucun des domaines. Alors quand on dit comme ça, là, je ne manquerai de rien, dans quel domaine est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins? Est-ce que vous pouvez me nommer quelques domaines où vous avez vu Dieu pourvoir à vos besoins? La maladie, la santé, n'est-ce pas? Dieu prend soin de nous dans la santé, merci. D'autres personnes, dans quel domaine vous avez vu Dieu prendre soin? Les finances, hein, amen. Dieu prend soin de ses enfants dans les finances, quelle que soit la situation. D'autres personnes, d'autres domaines? Oui. Notre mission, il nous équipe, il nous conduit, tout à fait. ce dont on a besoin pour accomplir les choses qu'il nous demande d'accomplir, il nous les accorde. D'autres domaines ? Dans tous les domaines. Quoi d'autres domaines ? Donc nommons-les pour proclamer qu'il est notre berger dans tous les domaines. Vas-y, tu peux en donner un, à quel tu pensais ? Domaine spirituel, amen. Où en êtes-vous avec Dieu ? Dieu veut être lui-même votre berger. C'est ça qui est merveilleux. Un pasteur disait, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Lorsque le Seigneur nous demande d'atteindre un objectif, de grandir avec lui, il nous équipe pour y aller. Lorsque le Seigneur nous dit, maintenant, je t'encourage à aimer ton ennemi. Waouh ! Quelle marche ! Il veut nous donner la puissance de le faire. N'est-ce pas ? Amen. Lorsqu'il te dit, voici la direction, arrête telle attitude, sois plus patient. Il ne dit pas, allez, débrouille-toi, dépense-toi, fatigue-toi, et puis tu reviens quand tu as fini. C'est, dans ce combat, je veux être à tes côtés. Dans cette démarche dans laquelle tu es en train d'aller, ce chemin que je te demande de prendre, je veux être avec toi. Il est celui qui pourvoit dans le domaine spirituel. Amen. Amen, exactement. Toujours des situations où Dieu ouvre la porte pour qu'on puisse ne pas pécher. Gloire à Dieu, il est à nos côtés. On est fragile, on est faible, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le cœur de David, quand il disait ça, David n'était pas quelqu'un avec qui tout allait bien, hein, on le sait, hein, vous savez, il a eu des gros péchés, il a eu des moments très difficiles, son propre fils l'a trahi, son général à qui il avait fait une promesse n'a pas respecté. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Son beau-père le poursuivait. Bref, il sait ce que ça veut dire être dans l'épreuve, être dans la difficulté, mais il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que l'on puisse encore se rappeler de cette phrase, nous qui connaissons par cœur, mais nous aussi qui l'apprenons aujourd'hui. Et voilà pourquoi l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Verset 2, parce qu'il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige dans de verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. David est berger, il sait ce que ça veut dire, il doit chercher, il doit amener ses brebis là où elles pourront se nourrir. N'est-ce pas ? C'est ça, hein, c'est... il ne va pas les amener dans un désert et se dire « Oh mince, je me suis trompé de chemin, les brebis, on va aller retourner. Ah bah toi, il y en a la moitié du troupeau qui est mort de soif ou de faim. » Non, il sait, il anticipe et il se dit « Tiens, là, la direction pour mes brebis. » Et là, elles pourront avoir des verts pâturages, de la bonne herbe. Tiens, là-bas, il y a un ruisseau, ça va être bon pour elles. Donc, le berger sait ce qui est bon pour les brebis. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il sait parfaitement, mieux que moi-même, mieux que toi, ce qui est bon pour toi, pour ton âme, pour ta marche, dans tous les domaines, on l'a dit tout à l'heure. Financier, conjoint, carrière, marche spirituelle, soyons à son écoute, n'est-ce pas ? Soyons à son écoute, parce qu'il est le bon berger qui sait quelle est la direction qu'on doit prendre. Alors prenons le temps, les amis, de solliciter l'Éternel. Et c'est quelque chose qui me marque beaucoup avec David. Avant d'aller en guerre, avant d'aller dans une direction, qu'est-ce qu'il fait David ? Il consulte l'Éternel. Quelle est la dernière fois où tu as consulté l'Éternel pour des choix financiers, des achats importants ? Il sait ce qui est bon pour toi. Pour des choix de carrière, il sait ce qui est bon pour toi. Prenons le temps de nous arrêter devant notre Dieu, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et il nous conduira toujours dans la bonne direction, vers les verts pâturages, vers l'eau paisible. Verset 3, il dit, il restaure mon âme, ou il me redonne des forces, il renouvelle mes forces. Il réintègre ce qui me manque. Et j'aime beaucoup cette version initiale qu'on avait, la version Louis II, 1910, celle-là, elle est un peu plus moderne déjà. Il me redonne des forces. Donc cette notion de... Je parlais d'étymologie, cette notion en fait de renouveler, de restaurer, de réencourager. Ça, Ça, c'était le terme hébreu utilisé ici. C'est très proche de redonner des forces. Mais ce que j'aime bien dans l'expression « restaure mon âme », c'est... Vous savez, souvent, dans nos vies, on peut avoir des blessures intérieures. On peut avoir été secoué par la vie, par ce que vous avez vécu, par les douleurs, par les péchés, par vos propres péchés ou par peut-être le péché des autres. Et peut-être que vous vous dites « à cause de mon passé, j'ai telle attitude ». Moi, j'ai dans mon église des personnes qui ont été abusées mentalement, psychologiquement par leurs parents, et ils en voient les conséquences aujourd'hui. Des attitudes d'angoisse, de crainte, des attitudes de complexe d'infériorité puissant. Mais, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on s'en rappelle, l'Éternel est notre berger dans tous les domaines, même dans ce domaine-là, psychologique, émotionnel, affectif. Et ici, il dit, il restaure mon âme. Il me redonne des forces physiques, émotionnelles, affectives. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous voyez que vous avez encore besoin d'être restauré? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous avez besoin de vous approcher du bon berger et de dire, Seigneur, là, manifeste-toi et montre-moi que j'ai besoin d'être restauré. Manifeste-toi et montre-moi que je peux recevoir encore de ta part une guérison. Et j'ai une sœur qui doit avoir une soixantaine d'années maintenant. Elle est passée par une très très forte dépression, et entre autres à cause de la conséquence de son passé. Mais le Seigneur a permis qu'elle rencontre sur son chemin des personnes qui l'ont accompagnée, qui l'ont conduite auprès du bon berger. Et elle qui demandait absolument de l'affection de tout le monde, elle est devenue une évangéliste hors pair pour communiquer l'affection du berger aux autres. Alors les blessures qu'elle avait, elles se sont diminuées, elles n'ont pas complètement disparu, mais elles ont absolument diminué pour laisser la place à un amour pour les autres. Et ça, c'est ce que le berger sait faire et peut faire encore avec chacun d'entre nous. Il restaure mon âme, il me donne des forces. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors une des grandes problématiques qu'on a quand on est chrétien, que ce soit jeune ou vieux, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, n'est-ce pas ? Souvent on se pose la question, est-ce que Dieu veut vraiment ça ? Moi, tout au long de ma vie, dès que j'ai grande décision, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je prenne tel travail plutôt que tel travail ? Que j'avance avec telle femme ? Heureusement, maintenant, j'ai dit oui et, et je suis marié avec Priscilla. Que je sois avec telle église, que je m'investisse dans tel domaine. Seigneur, dirige-moi, parce que j'ai besoin d'éclaircissement. Et j'ai besoin aussi de paix. J'ai besoin de confiance pour avancer dans la bonne direction et être convaincu que là où j'avance, Dieu est valide. Et là, le psalmiste proclame que à cause du nom, à cause de qui il est, à cause de sa personne, Dieu te conduira dans le bon sentier. C'est son objectif, c'est son désir pour toi, c'est que tu sois dans la bonne direction. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils pratiquent la religion, ils se disent, notre objectif, on est tous des aveugles, et puis chacun cherche un peu de son côté, et puis finalement, personne ne sait vraiment, et puis peut-être qu'un jour, on se retrouvera tous au même endroit. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il y a aussi cette image, où on se dit, chacun a une part de vérité. C'est vrai que peut-être qu'on peut se compléter, mais Jésus, lorsqu'il s'est présenté, il a dit quoi ? Il a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis la lumière. Il a dit, je suis le berger, je suis la porte, la direction est là. Et si vous la cherchez, si vous cherchez vraiment la direction que Dieu veut vous donner, alors vous la trouverez, parce qu'il est le berger. Il vous redonne des forces, il vous conduit dans les sentiers de la justice. Et un petit encouragement, parfois on cherche la volonté de Dieu, et on se dit, Seigneur, comment savoir si c'est ta volonté ? Et je crois qu'on peut ouvrir deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu. Et la deuxième, c'est la volonté spécifique. Donc voilà, je pourrais classifier grosso modo, hein, s'il faudrait un peu plus dans le détail, mais la volonté révélée de Dieu, c'est déjà ce que Dieu a révélé à travers sa parole. Donc elle est là, hein, sa parole. La volonté de Dieu, le chemin, la direction, la parole de Dieu est là. Donc on peut trouver la volonté de Dieu d'une façon générale. Et c'est un peu comme les deux bords d'une autoroute. faut pas aller à droite, il ne faut pas aller à gauche, il faut aller tout droit. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Et c'est pour ça que je sais que dans cette église, on l'encourage, mais prenons le temps de lire la parole de Dieu, pas juste le dimanche matin, n'est-ce pas ? Ou le dimanche après-midi. Prenons le temps de lire la parole de Dieu tous les jours chez nous. Soyons des hommes et des femmes qui aimons la Bible, qui aimons prendre le temps avec Dieu, avec ce berger, pour mieux le connaître, mieux le comprendre, parce qu'il parle. Mais après, il y a la volonté spécifique. Bon, je prends un exemple très récent. Clément, il a dû se dire, Tatiana, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et pourtant, il n'a pas trouvé de texte dans la Bible qui disait, Clément, tu marieras Tatiana. Non. C'était pas dans la Bible, ça, Clément ? Et pourtant, tu sais que c'est la direction que Dieu vous a donnée. Il y a des moments où voilà, le texte n'est pas là, mais Dieu donne les axes généraux. Et puisque Clément m'a raconté son histoire, je la connais un petit peu, mais il a cherché à suivre Dieu et déjà être bon et d'autres aussi, hein, et droit devant ce qu'il savait que Dieu demandait dans une relation vis-à-vis d'une fille. Ah. Par rapport à la parole de Dieu. Notion de respect, de pureté, de clarté, hein, dans les relations avec le sexe opposé. Faisons la volonté générale de Dieu. Et une fois qu'on sait qu'on veut servir Dieu, alors moi je vous dis, faites votre choix. Allez-y. Allez-y. Une fois que vous savez que vous avez mis au diapason de la parole de Dieu votre cœur, alors quelle que soit la carrière qui s'offre à vous, allez-y. Si vous savez que ce soit à gauche ou à droite, vous dites que j'aille dans cette carrière ou dans celle-là, dans ce métier ou dans celui-là, dans cette étude, dans celui-là, je veux servir Dieu et je veux l'honorer, alors vas-y, choisis. Seigneur, où est-ce que tu m'envoies ? Au Paraguay, en France ou en Afrique ? Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu ? Es-tu prêt à te soumettre à la volonté de Dieu ? Alors, les trois sont bons. Le Seigneur te conduira. Et s'il le faut, il fermera des portes, n'est-ce pas ? Je pense qu'on l'a vu, hein, le Seigneur qui ferme des portes alors qu'on s'est dit on allait dans une direction et clac, impossible d'y aller. Parce que Dieu est souverain. Et il ferme les portes quand il faut, il ouvre les portes quand il faut. Mais le plus important, c'est qu'on se dise, Seigneur, c'est toi mon berger, je veux te suivre. Où que tu m'amènes. Parce que le plus important, et on le voit ici au verset 4, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Là est toute la clé. Même si je rentre dans cette carrière et je ne sais pas comment ça va se passer, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Même si je pars dans ce pays et que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Même si je m'engage dans tel service à l'église et je ne sais pas comment je vais pouvoir porter tout ça, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Et là, le psalmiste prend une situation, une des situations les pires, hein, de la vie, c'est quand on s'approche de la mort finalement, les plus grandes épreuves, c'est quand il n'y a plus d'espoir, la mort s'arrête, la mort arrête tout. Il dit, mais même quand je m'approche de la mort, même quand les ténèbres sont les plus épais, d'autres versions diront, je ne veux redouter aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que dans ta vie, tu sais que Dieu est avec toi ? Est-ce que dans ta vie, tu as cette confiance, comme le psalmiste, de dire, mais Dieu est avec moi ? Je me rappelle, j'étais face à, et ça nous ouvrira sur Dieu qui dresse une table. J'étais face à des collègues un jour, on était au bureau, et ils lancent la discussion sur l'homosexualité, très en vogue. Hein. Et ils savaient que j'étais chrétien, donc ils connaissaient à peu près ma position. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous le dis, moi je pense que Dieu nous demande d'accueillir les tout pécheurs, hein, quels qu'ils soient. L'homosexualité n'est pas un plus grand péché que d'autres, Dieu nous demande de les accueillir. Par contre, la parole de Dieu est assez claire sur l'image du mariage qu'il donne, donc l'homme et la femme, l'homme s'attachera à sa femme, il quittera ses parents, ils deviendront une seule chair. Donc ça c'est l'image que Dieu donne du mariage, et donc que tout ce qui s'y oppose n'est pas dans le plan de Dieu. Et ça il savait que c'était à peu près ma position. Et au milieu de ce groupe, il y avait aussi une personne qui se présentait comme un homosexuel. Donc voilà, quatre collègues, dont un homosexuel, et là il lance le sujet. Donc bon, alors et vous, alors les protestants, vous pensez quoi ? Et donc je présente ce que je viens de vous dire, et là il y a une personne, ah ça m'énerve d'entendre ça. Et vraiment avec virulence. Et donc les autres aussi, oui, mais voilà, il faut avancer avec ton temps, comment tu peux rejeter les autres, etc. Non, je ne les rejette pas. Mais... Et donc on commençait, et là vous voyez un bureau qui, hein, ce n'est pas des situations qu'on apprécie, hein, n'est-ce pas? Et ce n'est pas les trucs qu'on veut vivre au travail, qu'on veut plutôt être là, accueillir les autres et qui nous apprécient, etc. Là, c'était plutôt, ah, Ruben, pas bien, méchant, il ne nous aime pas. Et là, menace de l'extérieur, jugement, condamnation, mais paix. Pourquoi paix? Je ne redoute aucun mal, parce qu'à ce moment-là, je savais que Dieu était avec moi. À ce moment-là, je savais que j'étais du côté de Dieu. Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'avais déjà remis ma vie et ce que je voulais vivre, c'était pour lui. Ta conduite et ton appui, ta houlette, voilà ce qui me réconforte. Le bâton du berger, je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, la houlette, c'est quoi? Donc c'est un bâton avec une petite croche comme ça. Et donc il l'utilise pour plusieurs choses, pour aussi défendre les brebis, pour... attraper, alors ils ont dit que les commentateurs disent que c'est croché comme ça, ils peuvent attraper les brebis qui s'éloignent ou qui s'écartent, et ou parfois quand une brebis s'éloigne trop, ils peuvent prendre leur bâton pour lancer une pierre pour qu'elle revienne. Donc voilà, le bâton, donc ils lancent une pierre, ça la surprend et elle revient. Ta houlette me rassure. Donc ce bâton-là est là pour mon bien, pour me défendre. À ce moment-là. Au milieu de mes collègues, je savais que Dieu me défendait. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, il y a cette collègue qui devient d'autant plus méchante. Et vraiment, elle est presque, elle avait de la haine pour moi, quoi. Et là, il y a les autres collègues qui se tournent vers elle et qui font « Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais il ne faut pas t'énerver comme ça !» Et finalement, les autres collègues se tournent vers elle et essayent de la calmer, quoi. Et finalement, c'était presque elle qui a dû sortir de la salle. Et ce qui est bien, c'est que mon témoignage n'a pas été gâché. Au contraire, ils connaissaient ma position, mais j'ai toujours voulu continuer à les aimer. Et même cette collègue, après, est venue s'excuser pour son énervement et pour son attitude, et on a continué à avoir des échanges très cordiaux. Mais au moment où j'étais menacé, je savais que Dieu était de mon côté. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si tu as mis ta vie entre les mains de Jésus-Christ, si tu as accepté le pardon que Dieu veut donner à tout homme, si tu as reconnu que tu as besoin de lui, alors Dieu va t'honorer. Dieu veut t'honorer. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Michael, tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Laurent, tu es précieux aux yeux de Dieu. Yada, tu es précieux aux yeux de Dieu. Chaque personne, et vous aussi que je n'ai pas nommé, bien sûr. Si tu as remis ta vie, Dieu nous proclame. Jésus-Christ, le bon berger, proclame, je donne ma vie pour toi. Pas juste sur la croix, mais d'une façon générale. Jésus est venu pour nous, pour la gloire de Dieu, pour nous sauver, pour servir son Dieu et pour nous servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu le vis? En tant que chrétien, est-ce que tu sais que Dieu est à tes côtés? Est-ce que dans ton âme, tu pourrais dire avec le psalmiste, je ne crains aucun mal car tu es avec moi? Est-ce que dans ton âme, tu peux dire, oui, Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires? Oui, ma coupe déborde. Oui, je suis précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer? Si tu ne peux pas le proclamer avec confiance, Dieu t'invite cet après-midi à l'expérimenter et à t'approcher du bon berger et à te laisser guérir de l'intérieur pour que tous les jours de ta vie, tu pourras dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Pour que tous les jours de ta vie, ton bien soit auprès de l'Éternel. Pas dans d'autres domaines. Où est notre assurance? Où est notre paix? Aujourd'hui, on a beaucoup de domaines d'assurance. Beaucoup de domaines de paix. Hier, j'étais avec des amis non-chrétiens que je connaissais depuis des années. Et ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus non plus. Et il y en a un qui me demande « Bon, toi qui as la foi, est-ce que tu ferais une assurance vie ?» Alors, je lui dis, bah, écoute, pourquoi une assurance vie? Donc, explique-moi, etc. Et en fait, il me raconte que lui, il se dit, il essaye de croire que ce qu'il fait est bon, mais en fait, il n'a aucun moyen pour bénir ses enfants s'il part. Et il a raison. Et il dit, la seule façon que je pourrais bénir mes enfants ou ou les protéger, c'est faire une assurance vie, comme ça au moins si je meurs, au moins il y a un domaine qui... Et c'est là qu'on parle de la sérénité. Je lui dis, tu sais, mais en fait, le plus important, c'est est-ce que c'est sur cette assurance vie que tu te raccroches, ou est-ce que tu t'essaies de te raccrocher à Dieu, ou à quoi tu te raccroches? Et je lui dis, tu vois, dans la vie, on n'a pas de certitude, par contre, on peut se raccrocher à Dieu, et là, Dieu nous amène à avancer dans l'avenir avec sérénité. Et je lui dis ça, et là, il fait, c'est ça qui me manque! C'est ça dont j'ai besoin. La sérénité, la paix dans l'avenir. Mon ami, frère, ma sœur chrétienne, vous avez à vos côtés le maître de l'univers. Waouh ! Vous avez celui qui dirige les temps et les circonstances. Pourquoi encore craindre ? Pourquoi encore s'inquiéter ? Pourquoi encore être dans l'angoisse ? Lorsque celui qui a promis d'être à vos côtés est le Tout-Puissant. Soyons comme le psalmiste. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et si vous avez à vos côtés des gens que vous voyez dans une situation difficile, n'oubliez pas que Dieu vous a placés à leur côté pour les soutenir. Et que la tâche n'est pas trop grande, parce qu'elle n'est pas trop grande pour lui. Quelles que soient les personnes que vous avez à vos côtés, et ouvrons nos yeux. Soyons attentifs, soyons compatissants. Voyons les gens dans les difficultés. Si vous-même, vous arrivez à proclamer ce psaume et que vous voyez à vos côtés des gens n'arrivent pas à le proclamer, prenons le temps de les aider à le proclamer. Qu'eux aussi puissent dire que la houlette de Dieu et son bâton les rassurent. Et on terminera avec la clé de cette marche. Alors la version second 21 dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je reviendrai jusqu'à la fin de mes jours. La version Semeur dira que je pourrai venir tous les jours à la maison de l'Éternel. Et la version 1910 dit « J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel ». Finalement, le plus important, c'est « Profites-tu de cette ouverture qui t'est donnée ?» Que le trône de grâce est ouvert et que l'accès à Dieu est toujours et permanentement ouvert pour tous ceux qui sont en Jésus. Profites-tu dans ta semaine de ce contact régulier et permanent où tu peux venir à Dieu, quelle que soit la situation, pour que tu expérimentes les bénédictions et les grâces du berger. Profites-tu de cette ouverture que Dieu nous donne à travers la parole pour connaître le chemin qu'il nous accorde et la vie qu'il nous ouvre. Il nous ouvre cela, prenons le temps de le faire. Comme ce psalmiste, waouh, quelle grâce! Je peux venir tous les jours à la maison de l'Éternel. Quelle grâce, je peux toujours être en communion avec lui. Quel privilège! Et là, c'est pour ça que le psalmiste peut crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Venons à chaque instant à Jésus. Prenons ce temps. Tout à l'heure, on a vécu un beau moment de louange. Mais pourquoi pas le vivre toute la semaine? Pas besoin d'attendre Tatiana et Clément pour qu'ils le fassent. On peut s'approcher de la présence de Dieu. On peut s'approcher de la présence de Dieu. On peut s'approcher de notre Dieu. Quelle que soit la situation que vous vivez, approchons-nous de Dieu. Et connaissons aussi qu'est-ce qui vous permet de plus d'approcher de Dieu. Certains sera dans le contact immédiat avec la parole. D'autres, ce sera peut-être par le chant, d'autres, ce sera par la prière. De sera par le silence. Connaissons qu'est-ce qui restaure notre âme. De sera en prenant un instrument de musique et en proclamant des cantiques. Qu'est-ce qui vous permet tout de suite de vous connecter à Dieu? J'aimerais juste qu'on puisse réfléchir à ça. Qu'est-ce qui, dans votre semaine, vous aiderait à vous arrêter et vous connecter à Dieu? Prendre ce temps et vous arrêter et dire « Ok, je me rapproche de Dieu ». Et peut-être juste ouvrir peut-être la parole, refaire open mic, très brièvement. Est-ce que des gens pourraient nous partager comment vous vous arrêtez, que vous vous connectez à Dieu dans la semaine, quand vous sentez que par exemple vos pensées partent dans l'inquiétude, ou dans une mauvaise attitude, ou dans l'impatience, comment vous faites pour « Ah, j'ai besoin de me reconnecter à Dieu ». Qu'est-ce qui vous aide ? Donc je laisse peut-être un petit instant de réflexion et puis dès que vous avez votre... Oui, allez-y. Ah, intéressant. Vous vous rappelez de... Oui. Vous rappelez du baptême qui est l'image de la grâce que vous avez reçue après avoir Jésus-Christ. Vous rappelez cette grâce du salut. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Voilà. Une autre personne voudrait partager comment vous reconnectez à Dieu, comment vous recentrez vos pensées sur lui. Oui. Louange au travail, merci Seigneur qui t'ouvre cette possibilité. Hein. C'est génial. Parfois, il y a Clément qui danse comme ça, ils disent pourquoi et tout. D'autres personnes, comment est-ce que vous arrivez à vous recentrer sur Dieu pendant votre semaine, quand vous êtes tout seul au milieu de non-chrétiens ou au milieu de votre travail? Allez-y, hein. Comme ça sera une bénédiction aussi pour ceux qui l'entendent. Ça, c'est une très belle façon, c'est se rappeler de... Moi aussi, j'aime beaucoup ouvrir la parole de Dieu et me laisser toucher par des versets qui viennent. Ouais. Peut-être une dernière personne qui voudrait partager comment elle fait. Allez, une dernière. Ou deux dernières. Non, c'est trop. Oui. Ah, waouh. Imaginez l'éternité, c'est vrai. Hein. Merci beaucoup. Chers amis, quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu veut nous ouvrir des portes. Comme disait le frère tout à l'heure, aucune tentation n'est trop forte si on se rapproche de Dieu. Et Dieu veut nous donner des opportunités de nous reconnecter, de reconcentrer nos pensées. Certains, c'est la prière aussi. Une petite prière. Seigneur, tu vois que je m'éloigne. Seigneur, je manque de patience. D'autres que j'ai rencontrés samedi, c'est la musique. Il dit, j'étais vraiment vide après, dans mon ministère. Et là, je me suis éloigné, je suis allé à la plage, j'ai pris ma guitare. Et j'ai loué Dieu. Et ça a été une thérapie pour lui, il disait. Vivons ce psaume et aidons les autres à le vivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est notre appel? Dieu nous demande d'être attentifs aux besoins des autres. Et soyons attentifs, il n'y a pas juste les prédicateurs ou l'équipe de présidence ou de louange qui doit se soucier des autres, c'est notre rôle à chacun d'entre nous. Est-ce qu'autour de vous, vous avez une personne où vous vous dites, mais le psaume 23 lui ferait tellement de bien? Priez pour lui, priez pour lui. On va terminer par la prière et j'aimerais juste proposer peut-être à des personnes qui aujourd'hui savent qu'ils ont besoin de revivre le psaume 23, d'expérimenter ça cet après-midi. Et demandez avec moi la grâce de Dieu. Demandez avec moi de retrouver cette grâce du berger. Et s'il y a une personne aussi que vous voyez auprès de vous qui vous aimeriez l'aider à revoir ce psaume 23, expérimenter ce psaume 23, je vous appelle aussi à vous joindre avec moi dans la prière. Et justement, pendant que les gens sont inclinés, est-ce qu'il y a des personnes justement qui, pendant que les têtes sont inclinées, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent lever la main et dire « Oui, moi, je veux qu'on prie pour moi pour que je puisse retrouver cette expérience du psaume 23 ?» L'Éternel est mon berger. Bien, je vous invite simplement à lever la main librement pour que je puisse vous voir et que je puisse prier pour vous. Très bien. Oui, j'ai vu, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des gens à cœur et qui disent « Mais mon frère ou ma sœur a vraiment besoin de retrouver ce psaume 23, a vraiment besoin de retrouver que l'Éternel est son berger. » Oui, merci, je vous ai vu. Merci, d'accord. Ben, je vais prier pour celles qui ont levé la main, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs amis. Et j'ai aussi prié pour ceux qui n'ont peut-être pas osé, mais on va se rapprocher de notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de miséricorde, nous t'aimons. Et nous aimons lire ta parole. Nous aimons lire, Éternel Roi, la beauté de ton message. Et merci, notre Dieu, d'être le berger de ceux qui suivent Jésus. D'être notre berger. Je te prie encore de bénir toutes les personnes qui ont levé la main cet après-midi. Tu vois encore celles qui ont... besoin de restauration, besoin de conduite, besoin de te réexpérimenter comme leur berger, comme celui qui les conduit dans chaque domaine de leur vie, comme celui qui leur dit « Tu n'as rien à craindre, car je suis à tes côtés et je suis avec toi et tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux. » Béni sois-tu notre Dieu pour ce que tu vas faire dès cette semaine, dès cet après-midi, pour ceux qui s'approchent de toi maintenant. Je te prie aussi pour les personnes qui ont à cœur des gens autour d'eux, qui sont dans des situations peut-être difficiles, qui sont dans des situations où ils n'ont plus cette paix, où ils n'ont pas cette paix, éternel roi, du berger à leur côté. Je te prie que toutes ces personnes qui ont levé la main, qui sont prêtes à s'engager aux côtés de leurs amis, que tu les remplisses de compassion, que tu les remplisses d'amour, tu les remplisses de bonté, de bienveillance envers leurs amis. Donne-leur les bonnes paroles, donne-leur les bonnes prières, donne-leur les bons soutiens, les bonnes actions, pour que leurs amis puissent venir à toi et être soulagés d'être aux côtés du bon berger. Merci encore pour toutes celles, peut-être, qui n'ont pas levé la main, notre roi, mais qui veulent vivre quelque chose avec toi et qui veulent être une bénédiction autour d'eux. Je te prie encore de les fortifier et gloire te soit rendue, notre roi, pour la grâce que nous avons de connaître le berger parfait, celui qui restaure nos âmes. Et j'en ai besoin aussi, notre Dieu. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais encore, par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.